Il existe un reportage film qui a été fait il y a quelques années sur le handisport, sur les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, etc., qui a été fait, je pense, pour Netflix, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était Comme des Phénix, un film absolument extraordinaire, bouleversant, vraiment avec des témoignages de champions, championnes paralympiques qui découvrent ce monde. Et donc je vous conseille, pour ceux qui voudraient voir, plonger dans cet univers. C'est vraiment un film assez exceptionnel. Donc Comme des Phénix, ça s'appelle.
J'ai deux réflexions. Une réflexion un peu positive et le fait que tu aies plein d'athlètes paralympiques qui parlent de leur foi, je me dis la question de la vulnérabilité conduit à Dieu, enfin de se dépasser. Donc, ça, c'est le point positif sur tout ce qui est paralympique. Et puis après, l'autre question qui va me venir, c'est la question de la justice, de l'ordre augmenté, de la place de la technologie, parce que maintenant, un athlète paralympique avec une bonne prothèse carbone, il peut aller bien plus vite qu'un mec valide. Et jusqu'où ça va? Qu'est-ce qui est juste? Est-ce que ne pas utiliser la technologie est juste ou pas juste? Enfin, voilà, c'est toute la question éthique, et où, à mon avis, l'Église a quelque chose à apporter à tout ce monde-là, quoi.
Oui, alors il y a aussi le fait que enfin, quand on parle notamment des prothèses, et tout particulièrement en athlétisme, c'est vrai que la fédération s'est saisie la fédération internationale s'est saisie de la question, parce qu'effectivement, c'est remonté aussi par les athlètes, parce qu'entre avoir une prothèse ou deux prothèses, et on voit que, et en fonction des disciplines aussi, parce qu'entre le 100 mètres et le 400 mètres, et entre guillemets, j'ai caricaturé en disant, ben sur le 100 mètres, la prothèse va moins aider qu'une jambe normale, mais sur le 400 mètres, elle va beaucoup plus aider, parce que la fatigue physique fait que, ben, sur une prothèse, il n'y a pas de fatigue physique. Voilà, donc il y a déjà toutes ces questions, mais après, c'est effectivement,
Est-ce que c'est juste?
voilà, est-ce que c'est juste? Mais c'est vrai que là aussi, entre guillemets, on retrouve aussi cette même question sur les athlètes valides, avec notamment le matériel. On l'a évoqué notamment. Il n'y a pas que cette question-là, mais avec les nouvelles chaussures en athlétisme qui font courir plus vite, il n'y a pas que les chaussures qui vont courir plus vite, mais on a aussi les mêmes. Enfin, on retrouve, je dirais qu'il y a des fois quelques questions spécifiques aux athlètes handisport, mais la majorité des questions, on les retrouve dans les deux aspects. C'est-à-dire qu'on retrouve autant la question du dopage chez les athlètes handisport que chez les athlètes valides. Et des fois presque plus. Au niveau on dit donc
On a en effet la question de justice au niveau du sport, mais on a aussi une autre question derrière, c'est parce que, y compris dans le handisport, il y a aussi l'aspect économique, donc du coup on met pour la recherche et tout ça. J'ai un ami oblat, donc de la bicipradine amputée des deux jambes, qui revit depuis 6 ou 7 ans, grâce à une technologie de prothèse allemande qui avait été développée au départ pour le sport et qui lui permet de pouvoir maintenant se déplacer quasiment, donc il est sur ses deux jambes, mais prothèse, quasiment comme nous quand on fait des rencontres et tout et qu'on veut faire dans des couverts. Et donc, alors qu'avant, je regardais par le côté du sport et je me disais c'est injuste quand on a vu, je sais plus, c'était Pistorius, qui avait couru plus vite qu'un valide avec ses prothèses en carbone. Et en même temps, de l'autre côté, je me suis dit, oui, mais d'un autre côté, il n'y aurait pas eu ces dimensions-là. Est-ce que... Donc, c'est très complexe finalement.
Oui, la limite, parce que tu peux te faire opérer les yeux et passer à l'autre service, quoi. Jusqu'où tu vas.
Sans compter le trans.
Oui, sans compter, voilà.
Oui, effectivement, il y a énormément de questions.
Oui, Alain. Sur ce point-là, je rappelle que ce serait intéressant de faire la comparaison avec les questions du soldat augmenté et où ça a avancé en France.
Le soldat
Oui. Avec, il y a toute une problématique autour de ça. La France a adopté un code, les armées françaises, mais c'est un train armé. Donc, est-ce que les critères sont. Voilà, ça peut être interrogeable. Enfin, Oui, il y a des analogies là. Hein,
oui, parce qu'effectivement, il y a des progrès au niveau des prothèses, etc., qui ont d'abord été faites par l'armée pour, voilà, notamment les exosquelettes, enfin, etc. Donc il y a beaucoup
mais,
de.
Mais aussi des opérations, par exemple, s'il y a une opération, un des critères, c'est qu'il faut qu'on puisse revenir à la situation d'avant. Voilà, il y a tout un monde là aussi qui existe et qui peut venir avancer par rapport à ces questions qu'on se pose là, sur aussi des questions de justice en fait, hein, et de santé. Et
je suis très sensible à avoir pratiqué le sexy foot. On fait des jeux avec les hommes en ligne. Il n'y a pas mieux que de rendre sensible pour avoir accompagné des nombreux rassemblements normaux comme les frères, la place du handicap. C'est moi j'ai toujours vécu avec le handicap qui se voit, mais le handicap qui ne se voit pas. Et comment améliorer cette place du handicap qui ne se voit pas, parce que c'est donc une très grande souffrance. Je pense que la fraternité des malades et handicapés ils sont toujours un peu à part, et comment ils font partie de nos célébrations et comment on arrive à les associer pleinement et entièrement dans les confirmations et dans le sport aussi.
C'est quoi le handicap si on est combien à avoir des problèmes de
c'est eux et c'est eux qui nous apportent. C'est eux qui nous apportent depuis qu'on a parlé.
Oui, Timothée.
Sur la question des performances qui se réalisent par les prothèses, moi ça ne me choque pas tant que ça. À un jour où il y a des sports passés sur un vélo, je me dis que quand je cours, il y a un peu de temps.
Oui, mais en fait, tu ne peux pas courir assez long.
Donc du coup, à partir du moment où il y a cette possibilité, mais ce à quoi j'avais été sensible avec le dernier congrès, c'était la dimension des contraintes imposées au corps. En fait, je parlais de ça, la question de cette prothèse qui parfois était un tel objectif de résultat que ça en devenait inhumain pour l'athlète.
On a ça à la fois dans l'aspect de la prothèse, mais aussi dans le dopage. C'est-à-dire qu'on retrouve souvent, on a beaucoup de sportifs qui sont contrôlés positifs avec de la drogue, cocaïne et autres. Et oui, mais c'est pas du dopage. Mais si, c'est du dopage parce que souvent ils ont des dopages médicamenteux pour entre guillemets s'augmenter physiquement, sauf que psychiquement ils tiennent pas le coup. Et donc souvent ils sont obligés de passer par la drogue. Moi, je me rappellerai toujours d'un témoignage d'un docteur qui traitait ceux qui étaient drogués et disait mais un tiers de mes clients sont des sportifs parce que le corps a une capacité et les produits dopants permettent d'aller au-delà de ce corps mais enfin je dirais le corps et l'esprit sont liés mais psychologiquement ils supportaient pas. Et donc, on a aussi cet aspect-là avec la machine où la prothèse peut aussi, elle peut être un plus pour notre corps, mais ça peut être un moins aussi pour notre corps.
Il me semble que ce domaine du handicap est particulièrement sensible au message que l'Église doit porter. Finalement, derrière tout ça, c'est toute une anthropologie aussi. Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Qu'est-ce qui fait sa valeur par-delà le handicap ou la bonne santé. Il y a des situations très diverses, mais je vais rejoindre tout à fait sur la question de la justice. Oui, la justice, est-ce que on va avoir des athlètes super équipés, d'autres pas du tout? Qu'est-ce qui fait ma valeur, ma performance et le fait que je réussis? Je repense à un film où j'ai eu cette réaction assez spontanée, et qui date d'il y a quelques années, je pense que la plupart d'entre vous l'avez vu, c'est le film Intouchable, un film avec plein de belles choses. Mais on sort du film en se disant, c'est beau, c'est tout d'accord, mais quel est le nombre de personnes qui ont les moyens financiers de mener une vie comme ça, quoi. Alors pareil pour le risque dans le handicap au niveau du sport, etc., c'est finalement de ne voir peut-être que ceux qui sont mis en lumière parce que pour X et X motifs, ils ont eu les moyens de pouvoir se procurer tel soutien technologique, physique, mais il y a tous les autres. Quoi. Et quand on a des personnes handicapées qui avancent qu'un, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas la couverture, ils ont plus de milieu, quoi. Et puis qu'ils voient d'autres personnes avec un handicap, mais qui sont super équipées, mais je ne sais pas comment c'est perçu ça aussi. Et donc l'importance de l'Église, de porter ce message et de dire, bon d'accord, c'est beau, ça, ces athlètes-là, quelque part, ils montrent qu'ils invitent à un souci de dépassement, donc, voilà. Mais leur valeur profonde, voilà, c'est ce qu'ils ont dans leur cœur, c'est pas le fait d'être équipé avec des... Voilà, d'avoir telle performance ou d'être capable d'arriver à faire plus ou voir mieux que quelqu'un qui est en bonne santé. Je pense qu'il y a un message qui est hyper délicat à faire passer à ce niveau-là. Ouais.
Après, il y a aussi la question, parce que tu évoques le matériel, la question pour les athlètes du matériel. Parce que le matériel est très très cher. Et on voit bien, discutant avec la Fédération d'e-sport, il y a énormément d'athlètes qui sont dans des situations très précaires au niveau financier, parce que c'est aussi très difficile de trouver un emploi, ils ne peuvent pas vivre de leur sport, il faut des fois du matériel, voilà. Un sponsor, et les sponsors, on le voit bien, la couverture médiatique des Jeux paralympiques, ça ne fait pas longtemps que c'est développé en France, parce qu'il ne fallait surtout pas montrer des personnes ayant un handicap, parce qu'il ne fallait pas choquer les gens. C'était un petit peu ça, et le pire, c'est que c'était France Télévisions qui avait tous les droits, mais qui passait aucune image, mais qui ne revendait pas les droits, ce qui fait que personne ne pouvait voir. Donc, alors ça, les mentalités ont évolué, donc c'est vrai que les Jeux Paralympiques, on commence à voir un petit peu plus, mais quand on voyait qu'on avait, entre guillemets, 50 heures par jour de Jeux Olympiques, parce que sur toutes les chaînes du service public, et qu'on se retrouvait avec une demi-heure de Jeux Paralympiques 15 jours après. Alors maintenant, ça se développe, il y a l'aspect Internet. Moi, je vois dans ma discipline sportive, que ce soit valide ou paralympique, on ne voit jamais à la télé, mais toutes les compétitions sont diffusées sur Internet. Les derniers championnats du monde étaient il y a quelques mois, j'ai pu les suivre en direct, il y avait des caméras de partout, il y avait les commentateurs, enfin voilà. Donc il y a des fédérations, l'IPC a beaucoup travaillé pour aussi que ça soit visible par le plus de personnes possible pour aussi développer le handisport. Et c'est vrai que ça pose effectivement la question pour le quotidien, mais on l'a évoqué notamment par rapport à l'armée, par rapport aux sportifs, que tous les développements qui sont faits au niveau compétition vont aussi avoir des répercussions après sur... parce qu'on améliore le matériel et on peut arriver progressivement à avoir certains matériaux usuels pour ceux qui ont un handicap qui deviennent de moins en moins chers aussi.
Ça, c'est l'autre bien.
Comment ?
Ça, c'est l'autre bien. Mais après, avec le prix et le développement de ça, et si tu veux faire passer tout ce qui est transhumanisme, si tu as décidé de switcher dans ça, tu vas y mettre la pub et les moyens, et parce qu'on a d'autres questions éthiques. Et par le sport et le handisport, tu vas utiliser cette image du pauvre gars handicapé pour influer d'autres idées.
Oui, de toute façon, il y a effectivement les aspects positifs et les aspects négatifs. Oui, Alain veut faire de la pub un petit peu pour une
idée. Non, c'est pas ça. Je retourne devant parce que je me souviens plus de la référence là. Mais il y a aussi d'autres jeux.
Alain Payard.
Il y a des jeux par rapport au monde des sourds aussi. Et il y a les Deaflympics. Je ne sais pas ce que c'est devenu cette affaire-là. Et puis, il y a aussi les Special Olympics, c'était avec la Fondation Kennedy.
Oui, ça
c'est encore.
Oui.
Est-ce que tout ça s'intègre les uns avec les autres ou ça reste des choses différentes?
Voilà, oui, c'est totalement différent. C'est vrai que le problème, c'est que au niveau handicap, il y a une palette tellement large que ça devient compliqué. Et puis, je regardais les médailles. Alors, je crois bien que c'est en natation où. Quand il y a le tableau des médailles aux Jeux Paralympiques depuis le début, ils disaient, mais oui, on n'a pas le même nombre de médailles d'or, de médailles d'argent et de médailles de bronze, parce qu'il y a eu des fois des athlètes qui étaient tout seuls. Il y a eu notamment une nageuse qui a été championne paralympique, elle était toute seule. Parce qu'on fait des classifications, mais il y a certaines classifications où il n'y a pas grand monde. Et donc c'est aussi le fait que Bah, si on veut avoir vraiment des Jeux paralympiques qui soient des Jeux paralympiques, on est obligé de faire des choix dans certaines catégories de handicap. Et il y a aussi le fait qu'il y a certains handicaps qui sont difficilement mesurables. Parce que bah, tu n'as plus de bras, tu n'as plus de bras. Au niveau handicap mental, même au niveau vision, c'est pour ça que notamment au niveau des aveugles, il y a certains sports où effectivement on met un bandeau, parce qu'il y en a certains qui ont bah, 1 sur 10 ou 0,5 sur 10, mais ça permet toujours de mieux voir que celui qui est aveugle. Voilà, donc c'est difficile. Et puis il y a eu aussi, on voit certaines disciplines au niveau où il y a des handicaps qui ont été présents et qui ont été enlevés. Donc c'est vraiment très, très difficile. Alors je ne suis pas spécialement forcément spécialiste de tous les domaines, mais c'est vrai que ben, il y a aussi des questions qui se posent. Moi, j'expérimente beaucoup dans notre discipline du développé couché le fait que les personnes de petite taille, on va caricaturer les nains, puissent être présents dans cette discipline. Parce qu'ils peuvent attirer à la fois en valide et en handisport. Mais sur un mouvement, je vais vous montrer. Moi, quand je fais un développé couché, je prends la barre, je fais ça et je fais ça. Un nain va prendre la barre, je fais ça et je fais ça. Donc si on est dans la même catégorie de poids, il va soulever automatiquement beaucoup plus lourd. Et je l'ai vu au dernier championnat du monde. Il y a notamment une grande championne qui a tiré en moins de 79, catégorie de petite taille. Elle avait 1 cm à faire contre des athlètes qui ont un autre handicap, qui avaient un mouvement beaucoup plus important. Donc là aussi, c'est de se dire, mais est-ce qu'il faut, mais dans quelle catégorie il doit tirer? On va pas faire un... Voilà. Donc
c'est toi qui es handicapé, là.
Oui, mais c'est ça.
Voilà.
Mais c'est là que, enfin, ce que vous dites me fait réagir sur, dans un monde idéal, la suppression des compétitions en sport, dans l'olympisme. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour gagner une médaille. On fait ça parce qu'on exprime quelque chose de son corps. Et donc, en fait, on pourrait imaginer dans un monde idéal qu'il n'y ait plus de compétitivité, que ce nain qui fait avec son. Il soit applaudi aussi fort que. Parce qu'il il s'est transcendé.
Oui, en fait, ce serait un petit peu ce que. Alors, ce n'est pas tout à fait cet esprit-là, mais les sports de démonstration, en fait, oui. De partager ce qu'on met, effectivement.
Un aspect qu'on a évoqué plus largement au niveau des Jeux Olympiques, à l'appui de l'initiative de Paris. Le jeu, le sport soit marqué par cette dimension du jeu. Ça fait plaisir quelque part. Et dans le paralympisme, je penserais, sans connaître, quoi, que cette dimension elle est éminemment importante. On joue, de donner la possibilité à des personnes qui ont un handicap de jouer, de se faire plaisir.
Quoi. J'aurais tendance à dire qu'on va peut-être plus le voir. L'aspect de jeu dans les athlètes handisports peut-être que dans les athlètes valides. Parce qu'il y a encore, pas toujours, mais on a quand même, entre guillemets, un aspect en plus amateur sur cet aspect-là. Mais c'est pas forcément. Après, ça peut aussi dépendre des disciplines aussi. Parce qu'effectivement, on peut avoir certaines disciplines qui sont tellement valorisées qu'on peut avoir ça. Parce que, entre guillemets, les témoignages qu'on a, notamment de certains champions, en disant, mais voilà, le sport m'a rendu la vie. Parce que beaucoup, notamment, ça dépend si c'est un handicap de naissance ou si c'est arrivé à la suite d'un accident, le sport, alors souvent c'est aussi la foi, soit aussi,
la foi
ou la surtout
vie.
La foi.
Et la foi en la vie.
Voilà, la foi en la vie aussi qui fait que, mais finalement, l'esprit de compétition aussi chez les athlètes handisport est aussi un fort moteur parce que ben voilà, on a un handicap, mais on va pouvoir développer un talent et.
Oui. Vous prenez lourde. Quand j'étais jeune, j'avais animé un atelier pour du football, hein, garçon-fille en même temps, et on dit presque invité à monter là-haut. Et alors, ce qui est intéressant, c'était en fait que on dit presque s'est réparti dans chacune des équipes.
Il y avait pas les valides. Hein. Avec les valides.
Oui, et donc ceux qui arrivaient avec un gonflant et un LK 10, qu'est-ce qu'on a gagné? Ce qu'on a gagné, c'est qu'on a découvert que le handicap, sous toutes ses formes, tout le handicap mental, c'est concret. Ils ont découvert
Et là, ça a changé tout à fait la manière de se comporter, dans la manière de vivre ensemble et surtout de pratiquer le sport. Et il n'y a eu aucune violence physique à répertorier. Et c'était l'inverse qui s'est passé, une attention à l'autre. Et il y a des jeunes qui ont dit « Je remercie Dieu d'être handicapé. » Regardez, il redit ça, parce qu'il dit « Je vois ce que vous ne voyez plus. » Et c'est ça qui était intéressant, c'était qu'ils étaient heureux. Donc il y avait une joie qui montait de dire, en fait, ils nous apprennent et ça rejoint l'évangile. Moi, je trouve. Et on a tout à gagner à mélanger et ne pas isoler, et surtout qu'il n'y ait pas du tout de récompense, ni de titre à honorer, mais que c'est la rencontre, immédiate et personnelle pour que ça, ça change notre regard sur notre manière d'être.
Moi, je travaille dans le handicap.
Dans la haute.
Très, très peu d'enfants, dans ce que je suis, peuvent rentrer au handisport. Parce que le handisport, c'est en vue de la compétition. Et ils n'ont pas de niveau. Donc faire du sport pour le plaisir, avec leur état dans lequel ils sont, comme, je ne sais pas, moi, quand je ne suis pas bon en sport, je peux aller faire du sport, le sportif du dimanche, quoi, voilà. Ben ça, non, il n'y a pas.
Alors ça dépend aussi beaucoup des départements. Parce qu'il y a des départements où le handisport a été beaucoup développé, et pas forcément que pour la compétition. On est souvent en déficit de, je vois sur notre département, on n'a pas beaucoup d'associations d'e-sport. Moi, je vois plus sur ma discipline où je suis un peu plus au niveau du développé couché, tous les athlètes participent au championnat de France. Mais même qu'on soulève 10 kilos ou qu'on soulève 200 kilos, parce qu'on a des champions français, on a Souad Ghazouani qui a été championne paralympique, qui est 5 fois. Bon, elle soulève 150 kilos, mais on a les petits athlètes qui commencent, qui font 20 kilos. Donc, entre guillemets, tous peuvent participer. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines, peut-être, disciplines qui ont la volonté de se concentrer uniquement sur la compétition pour avoir des athlètes, mais aussi des disciplines qui veulent développer simplement leur discipline et permettre au plus grand nombre de participer. Je pense que c'est aussi comment on donne aussi les moyens pour développer des associations sportives. Et je dirais que là aussi, c'est peut-être une question qui peut être lancée à la FSCF, Fédération sportive et culturelle de France, d'avoir, je dirais, et le handisport. Parce que là, justement, dans la FSCF, on est vraiment dans la perspective du sport pour tous. Et donc de dire, voilà, comment on peut... Je dirais, ben voilà, on a des. Alors moi, je sais que dans une des associations de. C'est sur 7 sur du rôle, au niveau de la gym, il y avait un jeune handicapé mental qui faisait des disciplines et dans les par équipes, il participait aux par équipes. Moi, je sais que la dernière fois, on avait fait l'exposition sur les valeurs du sport. Il était en photo avec son président parce qu'il avait reçu un trophée à l'occasion d'une compétition de gym normale. Parce qu'il avait participé avec l'équipe, et il avait été, et donc on l'avait récompensé. Et donc il était intégré dans le club, et la FSF permettait que, notamment dans le mouvement d'ensemble, lui aussi puisse participer. Et je pense que c'est peut-être aussi un élément à creuser, peut-être plus particulièrement. Alors la FSF a un partenariat avec la Fédération Handisport, donc je ne sais pas où c'en est, mais je pense qu'il y aurait à travailler. Mais c'est aussi pas si simple que ça, parce qu'il faut avoir des personnes qui soient formés pour pouvoir encadrer ces jeunes.
Bah, clairement, par exemple, tu vois, sur le handisport, c'est qu'à Tissotro, qui s'en occupe, la ville a accordé une salle que le mercredi matin, tu vois, et ils sont à l'école. Parce que les autres salles, tu vas les réserver pour les valides, quoi. C'est bien la place, quoi.
Il y a une expérience qui est faite chaque année, que c'est le marathon de Paris. Je participe au marathon de Paris et tout, et c'est une des premières choses où c'est visible. C'est-à-dire que quand il y a le départ des fauteuils roulants, il est en direct à France 3 et commenté par Bernard Faure, etc. Mais c'est intéressant, c'est de voir qu'il est avec. On a aménagé les 42 km en fonction, mais c'est avec. C'est-à-dire que c'est répertorié, c'est pas à part. Et là, ça prend toute sa place. C'est comment aussi les médias, ils ne mettent pas une compétition à part, mais qu'ils aménagent avec les autres compétitions des valides.
Une dernière petite question d'Alain, parce qu'il faut qu'on avance.
Alors, La première chose, c'est que je rappelle que le mot handicap, ça dit le fait de corriger justement. Et vous savez, c'était les courses de chevaux. Le mot remonte à plus loin. Hein. Mais c'est entre autres, ça a pris corps avec les courses de chevaux quand ils ont déjà fait plus lourd, etc. Ça peut bien exister. Ça vient de là. Ça veut dire que par définition, il y a des correctifs à mettre. Alors, voilà. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que peut-être par rapport à la FSCF, je ne sais pas ce que vous organisez là-dessus, mais moi je me souviens quand j'étais directeur de camp Mège, on avait lancé des camps vélo avec des aveugles. Et donc avec des tandems et tout ça. Voilà. Et on avait fait aussi des jeux où on était rendu aveugle. Pour que... Et alors les jeunes s'apercevaient que le corps des gens aveugles était quelquefois beaucoup plus doux pour un certain nombre de choses que leur propre corps. Voilà, vous voyez, et je trouve que ça, c'est une espèce de coéducation les uns par les autres qui est intéressante. Hein. La troisième petite chose que je veux dire, c'est que ce serait peut-être quand même pas mal de voir si dans toutes nos équipes, il n'y a pas moyen, alors ça c'est peut-être pour Gilles, mais d'avoir un contact avec le monde des gens, des spécialistes de l'Olympics et des Olympics, parce qu'il existe aussi d'autres choses, donc est-ce que ce n'est pas intéressant d'avoir un bout de lien avec, pour trouver quelqu'un qui soit, voilà.
Un petit mot sur Spécial Olympics. Alors déjà rappelé que à côté de la fédération d'e-sport et la fédération de sport adapté, et que comme toute vie institutionnelle, ce ne sont pas les meilleurs amis du monde. Parce qu'il y en a qui se considèrent comme moins que d'autres, ou plus que d'autres. Les Spécial Olympiques est arrivé des États-Unis, ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire de se dire la compétition n'est pas forcément la finalité. Par contre, on offre des activités réellement adaptées à des IME. Etc, etc. Et donc, Spécial Olympique, ça a comblé un vide. Et là, je fais un lien avec le Vatican, en considérant, donc, le père José, je peux lui signaler, je vais lui parler.
José.
José.
Just a word, je peux parler français. Vous comprendrez mon anglais. Hein. Just a word, oui. Rappeler que Spécial Olympics International est en lien direct avec le Vatican et que si vous souhaitez effectivement travailler avec Spécial Olympics International, ça peut se faire. C'est plus difficile avec Spécial Olympics France parce que on a les enjeux de la laïcité. Mais,
voilà, donc vous voyez que c'est un grand chantier.
Juste pour dire une petite chose. Il existe d'autres choses qui sont peut-être discutables, mais il faudrait voir en termes de lien avec... il y a tout le réseau des Maccabiades et compagnie. Est-ce que par un bout ou par un autre, on connaît ce machin comment, c'est très hyper nationaliste et compagnie, hein, c'est en Israël et voilà. Mais ça draine énormément. Là, au dernier, ils étaient 10 000 athlètes. 10 000 athlètes à la dernière Maccabiade à Tel Aviv.
Peut-être redire ce que c'est.
C'est des clubs, les Maccabées.
Oui, je vois bien, oui.
Voilà, Olympiades. Ouais. Et donc, ils ont créé des clubs Maccabées. Il y en a 26 en France, il y en a 450 dans le monde. Et ils organisent des Jeux Olympiques en Israël qui s'appellent les Maccabéades. Voilà. Et ils ont de 10 000 sportifs.
Et ils représentent leur pays.
Tous les 4 ans, même fonctionnement.
Mais ce sont tous des Juifs.
Oui. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas. Plus ou moins bien essayer de voir avec eux, je soulève juste la question. Ils sont rendus à 12 000 et c'est une organisation plus importante que les Jeux Olympiques.
D'accord, donc on va s'arrêter là parce que vous voyez que le champ est très large, mais on n'est pas là pour résoudre tous les problèmes, on est là pour lancer des pistes comme dans beaucoup de domaines. Donc il y a vraiment, et comme on l'a déjà dit, il y a un enjeu essentiel parce que le Paralympique n'est pas forcément toujours bien mis en valeur. Et c'est vrai que je sais que notamment quand Isabelle a rencontré Marie-Amélie Le Fur, elle était très contente de voir que l'Église s'intéressait vraiment aux Paralympiques. Et comme moi je l'ai dit assez souvent, au niveau des propositions qu'on va pouvoir faire, au niveau des Jeux Olympiques, ça peut être compliqué, mais au niveau des Jeux Paralympiques, on va être, je pense, très très libre, parce que, entre guillemets, on va avoir beaucoup plus de places de libre.